Présidentielle américaine J-7 et une semaine spéciale sur France Culture. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, ce que Trump a fait au journalisme. Il y a 4 ans, la nuit de l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche, notre invité avait concédé à ses lecteurs l'aveuglement de sa profession. Il n'avait rien vu venir, pas su prendre le pouls du pays, ne s'était pas fié aux bons indicateurs. Jim Rutenberg, aujourd'hui rédacteur indépendant au New York Times depuis janvier, ces 4 dernières années, il avait suivi la vie des médias après avoir été journaliste politique et correspondant à la Maison-Blanche pour Le Quotidien. En 2018, il faisait une apparition dans le film de la réalisatrice Liz Garbus, Mission Vérité, diffusé sur Arte, un documentaire en immersion dans la vie du New York Times pendant la première année de la présidence de Donald Trump. Passionnant. On avait envie de le retrouver pour savoir ce qui s'était passé depuis, pour savoir ce que 4 ans de présidence Trump a changé dans la vie des médias, et en particulier dans celle du premier quotidien du pays, journal de référence qui a fait depuis 4 ans du fact-checking sa marque de fabrique, dans la vie de cette institution de la presse américaine, pas toujours irréprochable pour autant, le New York Times. Bonjour Jim Rutenberg.
Hello, thanks
bonjour,
for having me.
Merci à vous de vous être libéré au milieu de la nuit pour être avec nous en direct sur France Culture. Et bonjour à votre voix française, Michel Slotowski, bonjour.
Bonjour.
2020, Jim Rutenberg, le New York Times a-t-il pris parti pour un candidat dans cette élection, tacitement ou ouvertement ?
Absolument pas. Nous sommes des journalistes, nous ne prenons pas parti. Nous rapportons les faits comme on les voit, mais exactement et équitablement, sans considération ce que les autres personnes pourraient reconnaître comme étant équitable, mais ce que nous pensons être équitable.
Vous êtes avec nous en direct, hein, je le disais, de New York, par Skype. Voilà, nous allons petit à petit faire, j'espère, évoluer cette connexion et vous allez pouvoir nous entendre aussi bien que nous vous entendons. En attendant, on continue à avancer avec vous sur un fil. 2016, il y a 4 ans, au lendemain de la victoire de Donald Trump, vous faites un mea culpa et un aveu d'échec. Cette nuit du 9 novembre 2016, dans les colonnes du New York Times, on peut lire ces mots de vous. Les médias d'information ont largement manqué ce qui se passait autour d'eux. C'est plus qu'un échec des instituts de sondage. Il s'agit bien de l'échec à entendre la colère bouillonnante d'une grande partie de l'électorat américain qui s'est senti délaissé par une minorité sélective, trahi par des accords commerciaux qu'il considère comme des menaces et non respecté par Washington, Wall Street et les médias mainstream. Est-ce que vous vous rappelez de cette nuit, de ce papier, Jim Rutenberg, sur le coup ? Est-ce que c'est l'émotion ou la raison qui ont dicté ces mots ?
It's one of my proudest columns.
C'est un de mes articles dont je suis le plus fier. J'étais à ce moment-là l'éditorialiste au New York Times en voyant ceci se produire. Et longtemps, j'étais sceptique sur l'utilisation des sondages pour prédire les résultats.
Vous savez,
les gens, ce qu'ils disent dans les sondages d'opinion, c'est ce qu'ils pensent sur le moment et pas ce qu'ils vont faire au moment de mettre leur enveloppe dans l'urne.
Quelles leçons avez-vous collectivement tirées de cet échec ?
Mais comme je l'écrivais cette nuit-là, ce qui s'est produit, c'est que le monde politique, l'establishment, comme on l'appelle, a véritablement cru que Hillary Clinton, la représentante de l'establishment, allait remporter l'élection. C'est pas qu'ils n'aient pas pris en compte les électeurs, mais ils se parlaient à eux-mêmes au lieu de parler au pays. Et je crois véritablement que cette fois-ci, la presse a changé, a appris les leçons, fait attention plus à ce qu'elle voit se produire dans le pays, plutôt que ce qu'un groupe de reporters se disent les uns les autres par Twitter.
Est-ce que c'était juste une affaire de mauvais indicateurs ou aussi d'idéologie assumée ou pas de la part des journalistes? Cette nuit-là, vous aviez conclu avec les mots de l'écrivain conservateur Rod Dreher, expliquant que la plupart des journalistes étaient aveuglés par leur propre bigoterie contre la religion conservatrice, contre les gens de la campagne, contre la classe ouvrière et contre les pauvres blancs. Vous êtes-vous rapproché, à défaut de vous être réconcilié, de cette Amérique qui a voté Trump? Ou est-ce que le pays est aujourd'hui plus polarisé que jamais, Jim Rutenberg?
Eh bien,
en le citant, je n'exprimais pas mes propres visions. Je pensais que c'était une opinion qu'il fallait prendre en compte. Je crois que la presse a beaucoup mieux travaillé et en surmontant beaucoup d'obstacles, avec un président qui passe son temps à convaincre une partie du pays que les reporters, que les journalistes sont des menteurs. Les journalistes n'aiment pas ça. Donc c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec la citation de Dreher. Mais quand on a le président des États-Unis, quelqu'un dont les supporters le révèrent et à qui il dit que les journalistes sont des menteurs, mais c'est, voilà... Et c'est notre boulot de pouvoir circonvenir cette façon de voir les choses.
Donald Trump a fait des médias une cible depuis 4 ans et déjà lors de la première campagne pour l'élection présidentielle. C'était donc le cas pendant cette première campagne, ce le fut aussi pendant son mandat. Voilà comment il parlait des journalistes. On écoute un extrait du documentaire Mission Vérité, diffusé il y a 2 ans sur Arte.
It is my honor.
J'ai le privilège de présenter à la CPAC 2017 notre président Donald Trump.
Merci à tous, c'est super d'être ici avec vous. Les médias pensaient qu'on ne gagnerait pas. Mais les laissés pour compte de l'Amérique ne le seront plus. Ils sont au cœur de ce nouveau mouvement. Ils se sont rendus aux urnes. Et les médias se sont dit, d'où viennent tous ces gens? Mais qu'est-ce qui se passe? Les médias ne disent pas la vérité. Ils n'ont pas de source. Ils les inventent. C'est faux, bidon, faux. Et je veux que vous sachiez qu'on se bat contre les fake news. Ce sont les ennemis du peuple.
Fausse nouvelle ou bonne ou juste nouvelle, les fameuses fake news. On va en reparler avec vous, Jim Rutenberg, sur l'enjeu aussi de cette information durant ce mandat de Donald Trump. Mais vous demandez, est-ce que depuis 4 ans, à vos yeux, le New York Times est devenu de facto un journal d'opposition?
De mon point de vue, non. Le New York Times a toujours été ce qu'il devait être. C'est un journal de vérité. Bon, peut-être que ça a l'air d'être de l'opposition lorsque le gouvernement et le président s'opposent à la vérité. Différemment de tout autre président, c'est ce qu'il a fait. De notre point de vue, et je crois que c'est vrai, nous sommes en faveur des faits. Et si ça a l'air d'être de l'opposition, ben c'est le choix du président et de ses supporters. C'est lui qui le décrit comme ça. Mais nous, ce qu'on fait, c'est notre boulot. Présenter la réalité telle qu'elle est.
Mais il y a bien une bataille de l'information aujourd'hui aux États-Unis.
Il y a une guerre de l'information globalement. Je crois que Je ne pense pas que la presse l'ait vu venir et, ou que l'establishment l'ait vu venir. Les deux côtés sont en train de se battre. Et le système, je ne veux pas dire simplement la presse et les réseaux sociaux, mais pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a pu avoir des fausses informations qui atterrissaient directement à un nombre incalculable de gens. On commence à voir le début d'un ajustement où l'autre partie de l'équation, l'équation qui a à voir avec les faits et le véritable journalisme, s'ajuste pour pouvoir certifier la vérité peut-être de façon plus agressive qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent.
Jim Rittenberg, vous avez été, vous, correspondant à la Maison-Blanche entre 2006 et 2008 sous George W. Bush. Est-ce qu'aujourd'hui, à vos yeux, c'est plus difficile de travailler sur la Maison-Blanche et sur l'administration Trump qu'auparavant?
Oui et non. Je ne suis plus correspondant à la Maison-Blanche. Et d'une certaine manière, c'est plus difficile. Et d'un autre côté, c'est plus facile. C'est plus dur parce que maintenant, on est constamment attaqué. On ne peut pas faire confiance à l'information provenant de l'administration parce que il se trouve que c'est faux. Et ça a été particulièrement prouvé pendant cette pandémie. Dans le même temps, on passe beaucoup de notre temps dans les années Bush pour nous rendre compte, pour essayer de comprendre à quoi il pensait, ce que son gouvernement allait faire. Et ce président, il est très libre dans sa façon de réfléchir à chaque seconde de sa journée. Et le gouvernement ou son administration tente de garder ses pensées secrètes, mais il y a beaucoup de fuites, et c'est très transparent de façon inattendue. Donc c'est un gros mélange. Ben, c'est beaucoup plus fatigant de ce point de vue-là, pour couvrir la Maison-Blanche, disons-le comme ça.
2016, l'élection de Donald Trump est devenue une date dans l'histoire politique des États-Unis. Est-ce que vous diriez qu'elle est aussi devenue une date dans l'histoire du journalisme ?
Je pense que oui. C'était une sonnerie de réveil, mettre fin à certaines mauvaises habitudes. J'aime pas parler de paresse, parce que les conditions de travail dans notre pays sont très difficiles pour les journalistes. Mais les choses sont de plus en plus confidentielles. Et il est difficile de pouvoir faire face à cette nouvelle guerre de l'information, comme vous l'appelez. Le journalisme doit être défendu et de façon beaucoup plus agressive. En 2016, c'était plus qu'un réveil. C'était un changement de climat dans l'information. Et des choses que l'on faisait correctement précédemment sont devenues parfaitement non pertinentes.
Comme quoi ?
Like what ? Si vous n'êtes pas capable de convaincre votre public, vos lecteurs, que ce que vous dites est vrai, si vous êtes constamment sur la défensive, et lorsque vous êtes accusé de raconter des mensonges et vous ne pouvez pas démontrer que ce que vous dites est vrai, vous n'allez pas survivre. Et je pense que la presse s'est ajustée et dans certains cas très brillamment. Et on a vu un nouvel âge d'or du journalisme, plus agressif, qui prouvait mieux les faits, ce qu'il voyait, ce qu'il disait. Et on a déjà vu depuis l'ère du Watergate, lorsque le Washington Post a pu faire se démettre un président convaincu de corruption.
Vous n'arrêtez pas, Jim Rittenberg, quand même, de parler d'attaque, de défense. C'est difficile de vous croire quand vous dites qu'on n'est pas, en ce moment, vraiment dans une guerre de l'information et que c'est aussi une guerre de tranchées avec deux camps assez défini.
Je ne suis pas d'accord avec vous, parce qu'une guerre signifie qu'on se bat contre l'autre côté. Non, on ne se bat pas contre l'autre côté. Nous nous battons pour les faits, pour la vérité. Et l'autre côté, l'administration Trump a tenté de dire que ce que nous étions en guerre contre eux. Mais c'est pas vrai. Nous nous battons pour la vérité, pour un nouvel environnement qui a été submergé par les mensonges et les fake news. Mais c'est tout.
Marty
Baron, The Washington Post, a dit « Nous sommes au travail, nous ne sommes pas en guerre. »
Fidèle à votre devise, à celle du New York Times, « All the news that's fit to print », toute l'information digne d'être publiée. Voilà, pour le New York Times, ce vieux journal, aujourd'hui encore journal de référence, premier quotidien des États-Unis. Alors 2016, cette même année, le dictionnaire Oxford choisit comme mot de l'année l'adjectif « post-truth », « post-vérité ». L'information serait devenue une opinion liée plus à la croyance, à la foi qu'aux faits. Lorsque Lise Garbus, la réalisatrice, a filmé le travail de votre rédaction pour ce documentaire Mission Vérité pendant l'année qui a suivi la victoire de Donald Trump, Dean Baggett, rédacteur en chef de votre journal, évoquait ainsi l'émission du New York Times à l'heure des fake news, des réseaux sociaux et de l'information en temps réel.
Nous pratiquons un journalisme agressif vis-à-vis de l'administration Trump. D'une part parce qu'elle bouscule tous les codes préétablis, et d'autre part parce qu'elle pose des problèmes inédits. Nous voulons incarner un journalisme d'investigation honnête et indépendant. Malheureusement, les journaux qui ont les moyens d'enquêter de la sorte se font de plus en plus rares. Ça coûte cher. Notre directeur de la publication et notre PDG estiment que nous économiserons de l'argent en réduisant la taille de nos locaux. Et tout dollar économisé ira dans le journalisme. Toutes ces institutions se doivent d'évoluer. Il faut que je trouve une solution, sans faire perdre de vue à tout le monde, que nous nous trouvons devant le dossier le plus brûlant de ces dernières années.
Voilà, tous les moyens sont mis pour y parvenir. Est-ce que la victoire de Donald Trump a accéléré pour vous cette révolution, Jim Rutenberg ?
Oui et non. Mais parce qu'à ce moment-là, lorsque mon patron a parlé, nous faisons face à des indicateurs économiques très mauvais, les pires de l'époque Trump. Les lecteurs se sont précipités vers les grands journaux qui font du véritable journalisme. Et soudain, ces journaux étaient plus rentables, il y avait plus d'abonnés. Il y avait une contre-réaction aux accusations de Trump sur les fake news, parce que les gens voulaient de la véritable information. Ils étaient prêts à payer comme ils n'avaient jamais payé précédemment. Malheureusement, d'un autre côté, beaucoup de journaux avec les grandes marques nationales, mais les journaux locaux n'ont pas été sauvés par leurs lecteurs de la même manière. Ils ont été défaits par Facebook et d'autres médias en ligne gratuits. Les gens étaient moins intéressés à acheter un journal papier alors qu'ils pouvaient voir de l'information sur l'Internet gratuitement. En fait, c'était l'histoire de deux villes, hein, si on reprend le titre de Dickens. On a besoin de ces grands journaux. Et on a besoin des journaux locaux aussi parce qu'ils disent la vérité localement. Et effectivement, on en a besoin d'eux dans cette guerre de l'information.
Deux ans plus tard, 2018, vous écrivez un article intitulé « How fake news changed the New York Times and didn't ». Hein. On est encore dans le oui-non qu'on entend de votre bouche, Jim Rutenberg, depuis le début de l'entretien. Comment les fake news ont changé le New York Times et ne l'ont pas changé? Alors qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé aujourd'hui, diriez-vous, en 2020?
C'est oui et non parce que ce que nous avons appris en tant que vérité, c'est difficile. Ça ne s'est pas dans cette caricature en noir et blanc que les gens aimeraient voir. Donc ce qui a changé, c'était que nous avons renforcé l'investigation, le journalisme d'investigation. Il faut véritablement mieux, si vous voulez, contrebalancer le fake news en exposant ce que nous pensons être la vérité, en la présentant mieux et de la manière dont nous le voyons en tant que journaliste. C'est toujours ce qu'on aurait dû le faire, toujours. Mais je pense que des mauvaises habitudes se sont formées et l'environnement du journalisme n'était pas aussi exigeant. Le changement, eh bien, c'était de revenir sur nos fondamentaux, c'était de réengager sur notre mission fondamentale, exposer la vérité.
Et sur le plan économique,
il faut, c'est pas simplement donner aux gens ce qu'ils veulent. Peut-être que ça nous a amené loin de notre mission fondamentale, qui est véritablement un bon journalisme d'investigation et corroboré par les faits.
Et ça donne par exemple cette grosse enquête que vous avez récemment publiée sur le peu d'impôts que Donald Trump paierait. Ça, c'est pour vous un exemple d'enquête réussie que le temps long de l'investigation aurait permis?
Mais je dirais plutôt oui. Mais c'est un peu différent aussi, c'est que dans ce pays, on n'avait pas besoin de faire ce niveau de recherche pour pouvoir obtenir les feuilles d'impôt des candidats. Au cours des 40, 50 dernières années, c'était quelque chose de normal. Toute personne qui se lançait dans une campagne électorale, y compris Joe Biden aujourd'hui, devait publier ses feuilles d'impôt. Mais ce président-là a décidé de ne pas le faire. Donc on a dû mettre en place toute une équipe de journalistes pour voir ce qui se passait dans les feuilles d'impôt qui n'avaient pas été publiées. Et ça, c'est au public de juger, c'est à nos lecteurs de juger si ça valait la peine ou pas. Et ce n'est pas une tactique de guerre d'information, c'est de l'information publique que le président des États-Unis a tenté de cacher pour la première fois dans une génération.
Aujourd'hui, pourtant, Jim Rutenberg, c'est l'une des principales sources d'un podcast du New York Times, Caliphate, de Rukmini Kalimachi, qui est mise en cause aujourd'hui. Ça a été l'une des émissions en podcast numérique phare du journal, montrant ce nouveau temps d'enquête, cette nouvelle manière aussi de faire du journalisme. Alors, il y a une enquête qui est interne, qui est en cours, hein, sur la question des sources, du poids de cette source dans ces révélations, probablement des résultats qui interviendront, mais peut-être aussi un peu tard. La question, c'est comment rester crédible comme journal de référence du fact-checking quand de telles dérives arrivent?
Well, that's where we handle corrections.
Eh bien, c'est de cette façon-là que nous traitons des errata. Ça ajoute à notre véracité, à notre crédibilité. C'est difficile, ça fait du mal à notre réputation. Ça se produit depuis longtemps. Vous savez, nous ne sommes qu'humains, hein, et des erreurs se produisent. Mais comment les traiter? Eh bien, reconnaître que c'était mauvais, que c'était pas bon. Voilà comment cette erreur s'est produite. Elle ne se reproduira pas. Et voilà le système qui a mené. Voilà le processus qui est pris en compte par le journal actuellement. Et cela, comment on recouvre notre crédibilité? Mais ça se produit pas sur Facebook, ni sur Twitter, ni sur les nouveaux sites qui ne corrigent jamais leur information. Notre mission est de rétablir la vérité quand on se trompe, et la seule façon de le faire, c'est d'aller jusqu'au fin fond de l'affaire. Ça peut prendre du temps, mais quand on vous dit ce qui s'est passé, vous allez voir le processus et vous allez voir ce qui fait la différence. Nous sommes des journalistes en faveur de la liberté de l'information à une ère des réseaux sociaux.
Mauvais timing quand même pour vous, hein, pour le New York Times, à 7 jours de l'élection.
Isn't it?
Yeah, well, that's why right now it's all about focusing on what's in front of us.
C'est pour ça qu'il faut se concentrer sur ce qui est devant nous. Heureusement, on a une très grande équipe. Et on est très très occupé à suivre ce qui se passe dans les bureaux électoraux, de voir quels sont les problèmes pour voter. Le président a mis la pédale d'accélérateur sur les fake news. Maintenant, il met la pédale d'accélérateur sur les fake votes, sur les faux votes. Et il dit que s'il perd, c'est que ça sera à cause des votes frauduleux, ce qui n'existe pas ici. Il n'y a pas de ça. Donc, heureusement, nous avons une équipe suffisamment grande pour pouvoir suivre ces développements.
Une dernière petite question sur ce point. Un nombre incalculable de prix Pulitzer pour les journalistes du New York Times depuis sa création, et notamment un prix Pulitzer collectif. Vous en savez quelque chose, Jim Rutenberg, pour les révélations en matière de harcèlement sexuel. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème, ce qu'on voit dans cette affaire Rukmini Kalimachi, l'affaire de ce podcast de starisation des journalistes?
La starification des reporters, on a parlé déjà, et ça remonte à la Deuxième Guerre mondiale. Les journalistes deviennent des célébrités, c'est toujours une route difficile et dangereuse. Mais vous savez, pour attirer l'attention, parfois il faut avoir la puissance de ces étoiles, de ces vedettes, de ces stars. Donc c'est parfois un petit peu compliqué, mais il faut toujours revenir à nos fondamentaux. C'est pas de nous que ça dépend. Si avoir plus d'attention, ça peut attirer véritablement les lecteurs vers votre travail, il faut simplement s'assurer que les faits sont corrects. Ce qu'on fait, c'est bon, mais il ne faut pas que ça prenne le pas sur notre mission fondamentale.
Voilà, pour quelques minutes encore avec nous, le journaliste Jim Rutenberg. Il est rédacteur indépendant, c'est-à-dire un statut émérite aujourd'hui au New York Times, après avoir été longtemps journaliste politique, correspondant du journal à la Maison Blanche, puis en charge des médias. Jim Rutenberg est avec nous pour quelques minutes encore sur France Culture. Il est 13h23.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Vous avez évoqué, Jim Rutenberg, les nouveaux enjeux aujourd'hui de cette campagne en matière d'information et de justice. Le pays baigne dans une atmosphère toxique. Beaucoup d'entre nous, écrivains, universitaires, sommes fous d'inquiétude et désorientés. Voilà ce que nous disait la romancière Joyce Carol Oates il y a quelques jours, qui s'inquiétait, pour la première fois, de voir en Donald Trump un président qui menace de délégitimer l'élection, de ne pas reconnaître les résultats. Est-ce que c'est un scénario crédible pour vous, Donald Trump? Trump pourrait-il ne pas respecter les lois électorales?
Well, I guess there's we first have to start with what the president has said.
Ben, il faut commencer par ce qu'a dit le président.
And he has said that
il a dit
he's not committed to necessarily
il ne s'engage pas à abandonner le pouvoir s'il pense que sa défaite est illégitime.
A true evidence-based, fact-based investigation finds that it was illegitimate.
Non pas si une enquête prouve que c'est illégitime, mais si lui sent avec son équipe que c'est illégitime, il ne les quittera pas le pouvoir. Il va falloir travailler comme s'il allait faire ce qu'il dit, ce qu'il a toujours fait. Les mots ont une importance. Il faut être préparé, sans exagération, à cette éventualité, parce que nous ne savons véritablement pas. Ça sera improbable, c'est pas clair. Est-ce que les institutions américaines, les tribunaux, les forces de la loi, Dieu préserve, l'armée, éviteraient que ça se produise? J'espère qu'on n'en arrivera jamais à cette extrémité. Mais ça sert aussi un but précis pour le président, parce que s'il peut convaincre les démocrates que lui ne se soumettra pas aux résultats, ça pourra amener des gens à ne pas voter, parce qu'ils ne considéreraient pas l'élection comme étant, comment dirais-je, représentant la voix du peuple, que ça n'aurait aucun sens si lui n'y prête aucune attention. Donc certains avocats des droits civiques pensent que c'est une tactique politique pour éviter que les gens aillent voter. En tant que journalistes, nous nous préparons pour couvrir cela. son opposition se préparera à le combattre et les institutions américaines, je peux vous le garantir, se préparent à réagir à cette possibilité également.
Vous venez de signer une série d'articles sur le système judiciaire américain. Jim Rutenberg, à vous lire, les tribunaux sont tous marqués politiquement d'un côté ou de l'autre, démocrate ou républicain. Elle a justement prêté serment hier la nomination de Amy Coney Barrett, la successeur du juge Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême, en est peut-être le meilleur exemple de cette politisation. Dans ces conditions-là, la justice ne peut plus jouer son rôle de contre-pouvoir, de garde-fou.
Well, I guess we'll just have to see about that.
Eh ben, il faut voir.
Amy
Brett Barrett
appeared
Elle a été nommée officiellement et confirmée la nuit dernière en tant que juge de la Cour suprême. Et elle est allée fêter ça à la Maison-Blanche. C'est très politique. Et ça a attiré beaucoup de critiques et d'inquiétudes, pas simplement de politiquement aussi, mais aussi de beaucoup de juristes et de d'universitaires. Il faut voir comment elle va prendre ses décisions. Quand on en viendra à l'élection américaine, il ne faut pas que ça change la dynamique de la Cour suprême. Mais ça voudra dire qu'elle sera plus favorable dans les tribunaux, devant les tribunaux, plus en faveur de des arguments de Trump.
Pro-voting oriented, that is, or that at least supports kind of restrictions on voting and things that limit voting.
En fait, il faut savoir si elle soutiendra ou pas les lois qui limitent les capacités des gens à voter. Donc, si vous voulez, l'équilibre déjà est en faveur de Trump par une voix supplémentaire, mais les conservateurs avaient déjà l'avantage dans les cours, dans les hautes cours de ce pays. Et finalement, c'est le dernier obstacle ou c'est le dernier moyen d'équilibrer la Maison-Blanche.
Voilà, J-7, on ne va pas vous demander un pronostic, Jim Rutenberg, mais on sent qu'il restera quand même beaucoup de cette relation entre la présidence des États-Unis et la presse et qu'elle ne cessera pas d'évoluer encore au lendemain de ce scrutin, de cette élection qui s'annonce assez cruciale pour la vie démocratique du pays et la vie des médias également. Merci beaucoup à vous, Jim Rutenberg, d'avoir été avec nous à distance. Autour de cette grande table par Skype au milieu de la nuit en direct de chez vous aux États-Unis à New York. Merci à Michel Slotowski pour sa traduction. Merci. Je renvoie les auditeurs vers les pages et les colonnes du New York Times où ils peuvent vous lire également parfois, souvent, dans les colonnes du Courrier International qui traduit vos articles et notamment l'un de vos confrères éditorialistes sur l'extension du domaine de l'indicible. C'est un article très intéressant de George Packer. Merci à toute l'équipe de la Grande Table qui a préparé et programmé cette émission. À Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez et Anouk Delfino pour cette Grande Table des idées américaines. À Henri Leblanc avec Oriane Delacroix et Madeleine Martineau pour la Grande Table Culture. Réalisation aujourd'hui signée Thomas Beau avec YouTube Diego Aclopez. Demain, autour de la Grande Table, de la bande dessinée avec des souris et des hommes, de Rebecca D'Autremer et des GAFAM avec la sociologue américaine Shoshana Zuboff, auteure de L'âge du capitalisme de surveillance. Nous sommes dans une semaine spéciale États-Unis, élection américaine sur France Culture, beaucoup de programmes à retrouver et notamment toute une semaine consacrée dans les chemins de la philosophie à Trump dans l'œil des philosophes. C'est passionnant et c'est au micro d'Adèle Vendrette tous les jours à 10h.